Les informations, Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonjour, à Kisangani, vol d'environ 4000 mètres de câbles électriques à l'aéroport international de Bangoka. La police de Kisangani accuse notamment des militaires basés à l'aéroport pour en principe le sécuriser. La régie des voies aériennes déplore les conséquences de ce vol sur le fonctionnement de l'aéroport. Vous suivrez le commandant de l'aéroport de Kisangani dans ce journal. Une structure nationale de prière des hommes politiques pour influer sur la manière de gérer l'État. Cette initiative du vice-président Roubero a fait du chemin. Elle a réuni hier au Grand Hôtel Kinshasa des pasteurs et hommes politiques de toutes les tendances. Des journées portes ouvertes hier dans les centres pour handicapés de Kinshasa et Kalemi. Objectif, célébrer ce 3 décembre la journée mondiale des personnes vivant avec handicap. Ces personnes, vous les entendrez, exigent de l'État le respect de leurs droits. Voilà tout pour les titres. À Kisangani, les responsables de l'aéroport international de Bangoka sont inconsolables. Près de 4000 mètres de câbles électriques qui alimentent l'aéroport international de Bangoka ont été volés. Le constat a été fait vendredi dernier par la police et la mairie de Kisangani. Selon le commandant ville de la police nationale congolaise, 8 suspects sont aux arrêts pour raison d'enquête. Des militaires, notamment ceux basés à l'aéroport de Bangoka, sont complices dans cette affaire. Certains parmi eux sont déjà passés aux aveux, a dit le major Nestor Nsidiku. Le commandant de l'aéroport de Bangoka déplore cette situation qui, selon lui, porte de graves préjudices à son institution. Panzu Kiyama est au micro d'Aliana Alipanagama.
Ce sont des actes criminels qu'il faut vraiment alors liquider avec la dernière énergie. Quand un aéroport n'a plus de courant, cela veut dire que l'aéroport est pratiquement inexploitable. Il n'y a pas moyen de mettre en service les moyens de télécommunication, il n'y a pas moyen de mettre en service les moyens de navigation aérienne, il n'y a pas moyen de mettre le balisage de secours en marche. Mais quand un avion vient, il a besoin d'une route. La route, c'est justement le fort et le DME qui donnent la route. Mais qui n'a pas de courant, il n'est pas en service. Donc il ne peut pas fonctionner. Mais quand l'avion doit atterrir, ce sont les moyens de navigation aérienne qu'on appelle navettes, qui sont privés du courant, qui ne peuvent pas fonctionner, donc ne peuvent pas donner l'occasion à l'avion d'atterrir, parce qu'il ne voit pas. Le balisage de la piste, pour poser l'avion au sol, il faut que le balisage de piste s'allume. Or, quand il n'y a pas de courant, vous ne pouvez pas allumer le balisage de piste. Donc, une fois le courant est coupé à l'aéroport n'est plus exploitable.
À noter que les vols de câbles électriques en cuivre sont devenus monnaie courante ces 3 derniers mois en province orientale. À Uvira, au sud Kivu, 7 civils rwandais sont tombés dans les filets des services de sécurité. Arrêtés le week-end dernier à la frontière de Kavimvira, ils sont détenus depuis hier samedi matin à la Direction générale de migration d'Uvira. Ils y ont été transférés vendredi par le service de sécurité qui les accuse d'entrée frauduleuse et illégale sur le sol congolais. Ces Rwandais auraient fui le tribunal populaire, le Gacaca, dans leur pays depuis 2005 et se sont réfugiés au Burundi et en République démocratique du Congo, où ils espèrent trouver un asile. La Direction générale de migration, la DGM, est en train de statuer sur leur sort. Les détails avec Fiston Goma.
Selon le Service national des renseignements à Uvira, ces 7 personnes auraient traversé la frontière de manière irrégulière. 4 parmi eux avaient des pièces d'identité burundaises et de laissez-passer délivrés au Burundi, tandis que les 3 autres étaient sans papier. Selon leur déclaration, ils auraient fui leur pays, le Rwanda, en 2005, après le démarrage des tribunaux de village, le Gacaca, pour s'installer au Burundi. Après l'identification par le gouvernement burundais de tous les étrangers vivant au Burundi, ils disent avoir voulu traverser la frontière pour trouver un statut de réfugié en République démocratique du Congo. Pour la Commission nationale pour les réfugiés, la CNR, antenne d'Uvira, la procédure de demande d'asile pour ces demandeurs n'a pas été respectée et leur vie n'est pas en danger. Le chef de poste spécial des migrations, Uvira, a indiqué pour sa part que ces personnes pourraient être renvoyées au Burundi lundi prochain au cas où la Commission nationale des réfugiés ne leur reconnaissait pas le statut de réfugiés, car, a-t-il précisé, leurs documents migratoires sont en ordre. Fiston Goma Mayabala, Uvira, Radio Okapi.
En province orientale, en Ituri, le commissaire du district veut ramener ses administrateurs au respect de la loi. Madame Petroni Vaweka, suspendue pour une durée de 3 mois, le chef de groupement de Baema Mitego, localité située à 80 km au sud-est de Bunia. Dans un communiqué officiel, l'autorité suspend le chef coutumier et demande à l'entendre en audition officielle. Il lui est reproché de faciliter l'infiltration d'éléments étrangers armés non encore identifiés sur le sol congolais. Petroni Vaweka, commissaire du district, s'explique au micro de Jean-Claude Bissiliabo.
Ce chef de groupement permet aux étrangers de passer sur le sol congolais sans aucune formalité. Et ces gens-là qu'il a accueillis sont au nombre de plus ou moins 50 personnes. Et ces personnes sont de nationalité étrangère, donc pas congolaise. Et ils viennent soi-disant avec leurs vaches pour les faire paître chez nous. Mais aussi, ces personnes sont armées. Certains parmi eux ont tiré sur les éléments de la FRDC qui sont déployés dans ces coins parce que c'est la frontière. Donc, vous voyez que c'est une... Je peux même parler de trahison parce que c'est très fort.
À l'est du pays, au nord Kivu, pour signaler que le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a bouclé hier son séjour de 3 jours à Goma. Avant de quitter le chef-lieu du Nord Kivu, il a visité des plantations de café et autres champs agricoles dans la chefferie Buzibulenga du Sud Kivu, au bord du lac Kivu. Joseph Kabila, pour rappel, s'était rendu à Sake, à 27 km de Goma, pour réconforter la population de cette localité, une localité qui a vécu des affrontements entre des éléments fidèles à Laurent Nkunda et des troupes loyalistes pendant 4 jours depuis le week-end dernier. Il a, entre autres, promis à cette population une assistance et de mettre fin à la guerre dans le territoire de Masisi. Comment influencer la gestion de l'État congolais par des valeurs chrétiennes? C'est l'objet du déjeuner national de prière organisé hier par le vice-président Roubaix-Roi, candidat malheureux au premier tour de la présidentielle. Travailler dans l'unité, tel était le thème hier au Grand Hôtel Kinshasa. Il s'agit d'une structure de prière réunissant des personnalités politiques en poste ou non. Parmi ces personnes, on compte des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement et des autres institutions de la République de toutes les tendances politiques. L'initiateur de ce déjeuner national de prière, le vice-président Azarias Roubaix-Roi, croit dans l'effet de cette structure.
Nous voulons influencer les institutions et la vie nationale par l'application des principes de Jésus de Nazareth. Mais je pense que la particularité, c'est que quand les hommes d'État et les responsables s'intéressent aussi aux affaires de Dieu, Dieu les utilise à influencer positivement la nation. Le Congo, notre pays, notamment après les élections, son avenir réside dans le travail, dans le lutte. Le concept de travail nous oblige à travailler réellement. C'est avéré que l'on travaille très peu. L'autre concept, c'est l'unité. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses qui nous différencient. L'unité, justement, est exigée là où il y a la potentialité d'être désunis. Ainsi donc, si nous travaillons dans l'unité, malgré la diversité, la nation va subsister.
Un autre membre de ce groupe national de prière, le pasteur Jacques Vernon de l'église La Borne, qui a son siège à Kinshasa, parle du rôle de l'église dans la gestion de la RDC.
Ceux qui sont membres de l'Église doivent être des hommes qui respectent les lois, qui aiment leur prochain, qui influencent la société dans ce qui est bien, dans ce qui est juste. Ça, c'est le premier rôle de l'Église. Je pense que c'est très positif dans ce sens que ça sensibilise les gens sur les valeurs spirituelles, surtout dans ce milieu politique, des affaires, etc., etc. Et bien sûr, ce qui s'ensuit, c'est le témoignage que nous devons apporter par l'influence que nous exerçons vis-à-vis de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je crois qu'on a une grosse tâche, une grande tâche à accomplir dans notre société.
Les propos du vice-président Roubaix-Roi et du pasteur Vernon ont été recueillis par Guy Maté. Le monde entier rend hommage ce dimanche aux personnes vivant avec handicap. Thème de cette journée mondiale, personnes vivant avec handicap, hommes comme toi. Pour ce faire, hier, le village Bondeko, une des écoles de Kinshasa qui accueille les enfants vivant avec handicap, a organisé une journée porte ouverte. Le but de cette séance, montrer au public comment ces enfants sont pris en charge en vue de rompre tout préjugé qui plane sur leur handicap. Reportage Stéphane Mukendintita.
Créé par l'Église catholique lors de la célébration du deuxième centenaire de l'évangélisation de la RDC en 1980, le village Bondeko Libanga est l'un des 16 centres qui forment l'œuvre diocésaine pour l'enfant vivant avec handicap à Kinshasa. Avec un effectif de 107 élèves, cette école accueille des handicapés auditifs communément appelés sourds et des retardés mentaux. Paul Ntumba, directeur du village Bondeko Libanga, nous donne son point de vue sur la prise en charge des enfants vivant avec handicap.
L'enfant congolais, disons l'enfant vivant avec handicap, n'est pas vraiment pris en compte comme il se doit. Nous remarquons que dans beaucoup de milieux, l'enfant vivant avec handicap est marginalisé. Nous devons continuer à sensibiliser davantage la communauté pour qu'elle puisse considérer l'enfant vivant avec handicap au même titre que l'enfant invalide.
Quant à la question de savoir comment ce centre procède pour l'inscription de ses élèves handicapés, Paul Toumba précise qu'après avoir prélevé l'identité de l'enfant, les encadreurs effectuent une étude sur l'origine de l'handicap dans le but de savoir s'il est acquis ou inné, et ce n'est qu'après qu'intervient la formation proprement dite. Cependant, bien que bon nombre de parents envoient leurs enfants handicapés dans des centres spécialisés comme le village Bondé-Kolibanga, beaucoup reste à faire du côté du gouvernement. Selon Dr Desmet, attaché à l'ambassade belge en matière de santé, une table ronde des ministères concernés serait utile pour l'amélioration de la prise en charge de l'enfant vivant avec handicap en RDC.
Journée porte ouverte également hier au centre Malkia Wa-Amani de Kalemi, un centre géré par des religieuses catholiques qui pratiquent la kinésithérapie et l'encadrement psychosocial des personnes vivant avec handicap. Au cours de cette journée organisée devant plusieurs personnalités, dont le commissaire de district de Tanganyika et le chef du bureau de la MONUC, les personnes vivant avec un handicap de Kalemi ont fait entendre leur voix. Expédite Mwamba Mubi.
Pour les personnes vivant avec un handicap présentes à la manifestation, leur message se résume en deux points. Tout d'abord, ces personnes refusent à la société de s'apitoyer sur leur sort, mais plutôt de respecter leurs droits, comme l'affirme le jeune Théodore Kassango.
Handicapé congolais que je suis, fier de ce que je suis. Handicapé de deux membres inférieurs et non de la tête. Donnez-moi la chance, chers parents, la chance d'étudier, de me développer, de progresser. Je n'ai pas qu'on s'apitoie sur moi. J'aime qu'on m'accepte et qu'on me respecte. Alors respectez mes droits.
Ensuite, ces personnes réaffirment leur disponibilité en vue d'être utiles à la société. Au sein de l'Association des jeunes handicapés orthopédistes au Congo, M. Nyembo Moussouyou est assistant d'atelier.
Je suis handicapé, mais je suis technicien orthopédiste. Je fais des appareils orthopédiques. Je suis été appris à Kinshasa. Ma message que je peux m'adresser à eux, c'est de nous prendre tout simplement en considération. Nous aussi, nous sommes utiles dans la société. Nous pouvons même prendre un pied pour la reconstruction de notre pays. À part la cordonnerie, la couture et autres, on est en mesure d'être même demain des présidents de la République parce que nos cerveaux aussi travaillent.
L'espoir de toutes ces personnes vivant avec un handicap est de voir le futur dirigeant de la Troisième République prendre en compte leur message. Kalemi, Expédie Mambamoubi, Radio Okapi.
Province de l'Équateur, plus de 500 ménages sont sans abri à Bumba, localité à 600 km en amont de Mbandaka. Leurs maisons sont écroulées par l'inondation. Ce sont là les effets des pluies qui se sont abattues ces derniers mois dans la province de l'Équateur. D'après l'ONG Caritas qui a lancé ce SOS hier samedi, c'est surtout l'augmentation du niveau de l'eau du fleuve qui a causé beaucoup de dégâts et plusieurs cas de maladie sont enregistrés parmi la population dans la zone de santé de Bumba. Béatrice Nabindi.
Au total, 580 ménages vivent sans abri, leurs maisons sont écroulées. Les enfants dorment ça et là et ne savent où aller pour se détendre, leur situation est devenue déplorable. Ces eaux de pluie qui se déversent sur les rivières coulent dans le fleuve Congo. Abbé Pani de l'ONG Caritas et Développement décrit la situation.
D'abord, la situation générale, c'est qu'il y a une augmentation d'eau qui dépasse l'état usuel du milieu, une augmentation que les gens ne sont plus dans leur maison. On estime d'une manière ou d'une autre qu'il y a déjà plus de 580 maisons qui se sont écroulées. Les gens sont sans abri. Et face à cette situation, le problème des ménages n'était plus debout. Les enfants sont éparpillés et les gens ont perdu leurs biens. La santé n'est plus bonne. Il y a les moustiques qui se sont multipliés. Nous voulons qu'on prenne en charge de tous nos sinistrés. Ça, c'est ce que nous voulons.
Selon le médecin chef des zones de l'Isala, Fabien Bongea, ils ont déjà enregistré quelques cas tels que diarrhée et beaucoup de cas de malaria suite à la prolifération des moustiques. Une délégation en provenance de Mbandaka va descendre à Bumba pour évaluer la situation. Il leur faut une assistance en médicaments. Contacté à ce sujet, le gouverneur de province Yves Mobando dit attendre le rapport du commissaire des districts de Bumba pour qu'il puisse faire un plaidoyer auprès des agences humanitaires et lance un SOS au ministère de l'Intérieur pour aider cette population en détresse. Mbandaka, Béatrice Nabindi, Radio Okapi.
En page internationale, plus de 150 personnes ont été tuées et 400 grièvement blessées lors des combats dans le sud du Soudan qui ont opposé d'anciens rebelles et des soldats de l'armée régulière ces derniers jours, a confirmé hier samedi un responsable des Nations Unies. Le président du Madagascar, Marc Ravalomanana, est donné grand favori de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu ce dimanche dans l'île de l'océan Indien. En dépit de récentes tensions politiques, signale l'AFP, un calme relatif prévalait hier dans le pays au lendemain de la clôture de la campagne électorale. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Merci à Sylvain Baougueré. Moi, c'est Jean-Claude Toumba Kamanga. Je vous dis merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.